d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Et Claude à la technique. Nous parlerons principalement de la grève illimitée des salariés de l'hôtellerie, du Louvre-Hôtel Groupe, et également de la part des profits réservés aux actionnaires des entreprises françaises. En effet, en parallèle des Nuits debout, les luttes sociales et ouvrières continuent. Le deuxième groupe hôtelier en Europe, Louvre-Hôtel Group, maison mère du Companil Tour Eiffel, détenu par le groupe hôtelier chinois Yingyang International, OUF, dont les bénéfices sont de 20 millions d'euros sur l'ensemble du territoire européen, s'assoit sur le droit de grève en embauchant des sous-traitants pour faire le travail des grévistes, ce qui est une entrave au droit de grève. Écoutons le son rue fait par Odile, membre d'AC, et également sociologue qui suit cette lutte depuis le début.
Si et très chaleureusement tous les salariés du Campanile sur Rennes, qui vous le savez, elles aussi se sont révoltées en 2012 contre ce système d'exploitation dans la chaîne Louvre-Hôtel, et qui ont pu, à l'issue d'un combat admirable, obtenir leur intégration chez Louvre-Hôtel, en finir avec le paiement à la chambre, obtenir le statut qu'ont les salariés qui travaillent dans ce campanile et ce première classe sur elle, à savoir un 13e mois. Ouais, une prime d'habillage-déshabillage de 235 euros par an. Les jours fériés à 100%. La prime de transport à 100% à partir de cette année. Voilà, tout ça, c'est le résultat de leur lutte, qui a été très longue. La première fois, on avait fait grève 28 jours. Donc, le record est à battre hein, pour les camarades du Campanile Tour Eiffel. On avait fait grève 28 jours, on avait pu obtenir quelques avancées. Et puis, lors de la menace d'un deuxième mouvement, Louvre-Hôtel s'était décidé à internaliser les salariés. Donc, aujourd'hui, la peur est du côté de Louvre-Hôtel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que par l'action syndicale, on pouvait obtenir l'intégration, on pouvait améliorer le statut des salariés, qu'ils soient en interne chez Louvre-Hôtel ou qu'ils soient de la sous-traitance. Donc aujourd'hui, Louvre-Hôtel a peur qu'avec ce nouveau mouvement, effectivement, ça fasse tache d'huile au niveau du groupe et qu'ils soient obligés partout de donner le même statut social. Mais nous, ce que nous disons à Louvre-Hôtel, nous leur disons quelque chose de très simple. Vous avez choisi effectivement, de façon totalement fictive, de créer une entreprise par hôtel. Ce système-là, nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus effectivement de ce système qui permet à Louvre-Hôtel de dire que chaque entreprise n'a rien à voir avec l'autre, alors que tout ça, vous le voyez bien, est dirigé par le siège à la Défense, à qui on va rendre très prochainement visite. Donc tout ça est dirigé par le siège où sont les quatre dirigeants, les actionnaires qui mettent toujours le pognon dans leur poche et qui donnent rien à l'exploitation, notamment dans les petits hôtels. Et ça, il va falloir effectivement maintenant qu'ils rendent des comptes et surtout qu'ils réalisent qu'au Campanile Tour Eiffel et partout dans le groupe, on va essayer de faire monter la mobilisation de plus en plus fort parce qu'il y a beaucoup de salariés dans les petits hôtels qui sont concernés. Partout dans le groupe, ben mesdames, l'esclavage est terminé. Campanile, Tour Eiffel, l'esclavage est terminé. Campanile, Tour Eiffel, l'esclavage est terminé. Campanile, Tour Eiffel, l'esclavage est terminé.
Campanile, Tour Eiffel.
Et donc, Macron. C'est pas que pour les actionnaires chinois. Faut partager le magot avec tout le monde, avec les salariés. Voilà. Donc c'est ça qu'on va demander au juge de Nanterre d'interdire. Des prochaines actions sont également envisagées. Nous avons d'autres actions que nous tenons pour l'instant secrètes, parce que faut quand même faire un peu de surprise à nos amis de Louvre-Hôtel. Demande de telle compagnie, nous irons également au siège demander la solidarité des salariés du siège pour pas qu'ils se prêtent à ce petit jeu de la société Louvre-Hôtel pour contourner le droit de grève. Et également, nous sommes en train d'organiser, difficilement, mais on va y arriver, une nuit des grévistes debout. Parce qu'il faut aussi, aujourd'hui, dans la situation sociale dans laquelle est le pays, avec cette loi El Khomri complètement pourrie, contre laquelle les jeunes, la CGT, les étudiants, tout le monde se bat, il faut aussi qu'on arrive à faire monter ce mouvement social pour que le gouvernement... Nous, on l'appelle le gouvernement Hollande-Berger-Gattaz, retire ce projet de loi qui est une catastrophe pour le monde du travail, retire effectivement cette loi qui va détruire beaucoup d'avantages sociaux et surtout beaucoup de règles actuellement qui protègent notamment les salariés dans les petites entreprises. Et on vous tiendra au courant, la prochaine initiative d'ampleur, ça sera cette nuit des grévistes debout du Campanile Tour Eiffel. Voilà. Merci encore aux salariés de Suresnes, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Je vais passer la parole à ceux qui le souhaitent, s'il y a un petit mot à dire. Kaba. Elle est où, Madame Kaba?
Elle est où, Madame Kaba?
Alors,
hein? Non. Je passe la parole à Odile qui va nous dire quelques petits mots de solidarité.
Bonjour, moi je fais partie d'un collectif pour les droits des femmes. On se bat pour l'égalité des salaires complètes entre les hommes et les femmes. Ouais. Et on soutient votre lutte parce que on est contre le fait que les femmes soient aient des salaires aussi faibles et des contrats de 4 heures ou de 5 heures comme vous avez. Et surtout que tous les contrats précaires, les contrats à temps partiel imposés qui font qu'en réalité... Eh bien, vous travaillez plus d'heures pour faire les chambres, puisqu'on vous demande de faire 4 chambres par heure à Campanile Tour Eiffel. Et en réalité, vous faites plus d'heures et ces heures-là ne sont pas payées. Donc, il faut une revendication de paiement de toutes les heures travaillées, d'arrêt du paiement à la chambre et à la tâche, et de paiement par heure, et aussi d'intégration dans le personnel de l'hôtel. Voilà, merci.
Et moi, je voudrais préciser que demain soir, donc jeudi 14 avril à 19h, il va y avoir un débat sur la place de la République au sujet du travail des femmes. Ouais. Donc, si vous voulez aller montrer, expliquer quelles sont vos conditions de travail dans l'hôtellerie, dans la sous-traitance des hôtels, il faut y aller pour que tout le monde sache, parce que là-bas, il y a des centaines de personnes qui vont vous écouter. Et tout le monde, tous les soirs, est là et discute de toutes les luttes. Voilà, merci.
Merci beaucoup.
Merci aux copines de Suresnes. À bientôt.
Merci.
c'est une agent de sécurité, de la sous-traitance. Donc ils appellent des agents de sécurité qui viennent, qui ont discuté avec eux. La majorité, c'est des étudiants, les pauvres, qui travaillent jour, ils ont travaillé toute la journée, donc ils continuent la nuit pour reprendre encore le travail le lendemain. Alors vous comprenez que c'est à un moment donné, ça doit cesser.
Et c'est des salariés bénévoles, c'est en gros c'est ce qu'ils disaient.
Oui, dans leur langage, oui.
Ils viennent bosser gratos à l'hôtel pour briser la grève, quoi.
Ouais, tout simplement parce que je pense pas qu'il y ait des bénévoles. Il reste plus de bénévoles ici. On peut faire du bénévolat quand on a une association, mais je pense pas que je vais venir travailler bénévolement comme ça. Je l'ai jamais vu. Enfin, voilà, à peu près. Ouais, enfin, je sais pas comment le qualifier, mais ouais.
Et qu'est-ce que vous avez fait ça contre cette situation là?
Bah, que nous, pour l'instant, donc, on est resté calme. On a respecté l'endroit. On a respecté la propre des lieux. On n'a pas fait du bruit, on a laissé tout le monde rentrer, tout le monde sortir, donc on a empêché personne de rentrer. Et on attend donc des solutions, qui n'arrivent jamais d'ailleurs. Hein.
Voilà. Mais vous avez quand même vous avez intenté une plainte au tribunal pour cette histoire de salariés bénévoles.
Ah ben oui, donc là,
on essaye. On a besoin du mégaphone pour demain, mais du coup, demain, c'est.
Oui, c'est demain, donc demain, à mon avis, donc il y a une séance au tribunal justement pour statuer sur cette situation. Je pense que, à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont anticipé les choses. Donc ils ont fermé l'hôtel pour montrer peut-être leur bonne volonté, on ne sait pas, mais en tous les cas, oui, il faut qu'ils arrêtent. Oui, ils n'ont pas le droit de faire venir des gens travailler à notre place alors qu'on est en grève. C'est contre le droit de grève.
C'est un grand hôtel, il est en taille, il est grand.
Il y a 76 chambres, madame. C'est un hôtel qui fait à peu près 2 500 000 chiffres d'affaires par an.
Il est de combien d'étoiles?
Il est 2 étoiles, mais il est très bien rempli. Il est plus rempli, plus rentable que les 3 étoiles qu'on trouve ailleurs.
D'accord. Les chambres, elles sont chères?
Ah, trop chères, madame. Elles sont à 176 euros. Et parfois, on les a même vendues à 200 euros. Bon, après, c'est le centre de Paris. On peut justifier comme ça la proximité de la Tour Eiffel, si vous voulez. Oui.
Et le groupe Louvre-Hôtel, c'est quoi exactement?
Le groupe Louvre-Hôtel, donc, c'est une très bonne question. Je ne me suis pas penché là-dessus, mais je crois que c'est la mise en mer de tous ces hôtels. Donc ils ont les compagnies, les premières classes, les Kyriette, Golden Tulip. Enfin, c'est un grand groupe. Et donc là, je crois qu'ils se sont associés avec Jinjiang Inn,
les Chinois
qui les ont rachetés. Voilà, ils ont été rachetés ouais, par les Chinois, mais d'après l'ancien directeur, pour l'instant, les Chinois ne se mêlent pas. Donc c'est une gestion locale. C'est juste l'argent.
Le groupe Louvre-Hôtel.
Voilà, donc en fait, les Chinois ont apporté l'argent. Et la gestion, c'est toujours les équipes en place. Hein. Si j'avais les équipes en place qui gèrent toute la chaîne, c'est-à-dire de plusieurs hôtels. Ouais.
Et alors, il y a combien de personnes dans les grévistes?
Les grévistes, donc, nous sommes 13 au total, avec 14 au total avec les femmes de chambre, donc la directrice inclue. Et donc les 13, donc tout le personnel est en grève, sauf la directrice.
Et les gouvernantes aussi sont en grève?
Ah oui, la gouvernante aussi, elle est en grève, oui. Elle est en grève, les femmes de chambre.
Les femmes de chambre, il y en a combien?
Donc il y en a 6, c'est ça qu'elle a?
5 femmes de chambre.
Et plus la gouvernante.
Plus la gouvernante.
Voilà, donc il y en a 6 en tout, 6.
Et
nous,
les autres, ils font quoi?
On est 7, donc moi, je suis veilleur de nuit. Mon collègue Simon, veilleur de nuit. Donc Momo qui est adjoint. Vadim, réceptionniste, Moniad, sous-directrice, et Fouad, d'employé de l'exploitation, je crois, c'est ça. Oui, Maulida aussi qui fait le petit déjeuner.
Et il y a des gens qui font les petits déjeuners?
Deux.
Deux personnes?
Deux personnes,
ils
oui.
Ils sont graves ou pas?
Aussi, oui.
Ils sont graves aussi.
Ouais. Tout le monde est en grève, sauf la directrice.
Qui a été parachutée il y a...
Il y a quoi?
Il y a un mois.
Oui, donc même pas, oui. Elle a été parachutée, donc elle est en urgence.
L'hôtel est... Il a des salariés permanents aussi.
Oui, c'est l'hôtel, il a que des salariés permanents.
Sauf les femmes de chambre.
Voilà, c'est ça. Donc les femmes de chambre, si on dit comme ils disent dans leur langage, c'est de la sous-traitance.
D'accord.
Mais
donc,
ce sont toujours les mêmes femmes de chambre qui travaillent ici.
Oui, mais ça fait que parmi les grévistes, en fait, il y a à peu près la moitié de grévistes qui sont salariés de l'hôtel
voilà.
Et l'autre moitié qui sont salariés d'une société de sous-traitance.
Tout à fait, c'est bien ça.
D'accord.
Et alors, attends, je me disais, parce que là, vous aviez vu sur Internet qu'il prévoyait de recommencer à vendre les chambres à partir du 12, c'est ça?
Je ne suis pas au courant, c'est peut-être mon collègue Fouad. Ouais. Je ne suis pas au courant, moi, je n'ai pas regardé sur Internet. Moi, je peux vous en parler de la fermeture d'hier soir. Mais ça doit être mon collègue Fouad qui m'avait dit ça, mais je n'ai pas vérifié l'information. Ouais.
Est-ce que ça veut dire qu'il prévoit de régler le conflit d'ici le 22 avril, quoi?
Certainement. Bon, comme je vous ai dit au début, donc je pense que ça va prendre un peu de temps. Donc ils essayent comment faire en sorte que les autres ne vont pas se mêler à ce conflit.
Alors, expliquez les problèmes, tous les problèmes qu'ils ont, les personnels de l'hôtel et les personnels de la sous-traitance. Ils ont beaucoup de problèmes de revendications.
Bon, on commencera, si vous voulez, concernant la sous-traitance. Donc, comment ça se passe, la sous-traitance? Je ne sais pas si ma collègue, elle peut appuyer ça. Mais, donc, moi, comme ça fait 8 ans que je suis dans la boîte, donc avant, on avait une femme de chambre propre à l'hôtel. Donc, ce sont des salariés de l'hôtel qui sont payés, on peut dire, correctement, et qui travaillent ici. Ils ont un nombre d'heures à travailler, ils ont l'indemnité de nourriture, donc ils bénéficient des mêmes avantages que nous. Donc Louvre Hôtel a décidé de sous-traiter le contrat. Donc ils ont fait venir des sociétés de l'extérieur. Il y avait une première société, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, qui a été peut-être rachetée, je ne peux pas vous confirmer ça. Donc c'est la deuxième société STM. Donc c'est des contrats de 4 heures. Ils sont de 4 heures pour les femmes de chambre. Donc ils sont censés commencer à 9h, finir à 13h. Et donc, ils doivent faire cadet. Tu peux parler sur le volet femme de chambre, s'il te plaît, là, parce qu'elle m'a posé la question, là, on fait la conférence. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous fonctionnez?
Le paiement à la chambre, pour les femmes de chambre, avec STN, c'est pas par heure, c'est par chambre. 4 chambres, 1 heure. Voilà.
Faire quatre chambres à une heure. Et alors, qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'arrivez pas, si vous mettez plus de temps?
Avant, on nous payait les heures sup, mais maintenant, quand on est venu avec la STN, on nous a jamais payé les heures supplémentaires.
C'est-à-dire, vous mettez plus de temps pour faire vos chambres?
Ouais. Que tu fais 18 chambres, que tu fais 24 chambres et 20 chambres, que tu fais n'importe quelle chambre, on te paye, quand tu as un contrat de 4 heures, on te paye à 4 heures. Alors que ça, c'est un truc qui n'est pas normal.
Ah bon, si vous avez 20 chambres, normalement, ça devrait être au minimum 5 heures.
Voilà.
Pour... Et vous ne payez pas 5
non,
heures.
Non.
Les heures supplémentaires ne sont pas payées.
Jamais.
Il n'y a personne qui a jamais touché
les heures sup ici.
Et en plus de ça, si vous mettez plus de temps, mettons, pour faire certaines chambres, ça ne vous est pas compté ce temps-là.
Non. Voilà. Non,
donc
pas du tout.
Là, il y a vraiment une double arnaque.
Pas du tout.
Donc, c'est qu'elle dépasse systématiquement.
Parce que moi, j'ai déjà parlé de ça avec Marie-Josée. Elle m'a dit que oui, des fois, les filles ne font pas leur quota. Moi, j'ai dit, mais ça, ce n'est pas la faute des filles. S'il n'y a pas de boulot, les filles ne peuvent pas créer le boulot pour faire.
Il y a des jours où il n'y a pas assez de travail.
Il y a des jours où les filles font 14 chambres, 12 et 13 chambres, des trucs comme ça. Elle m'a dit aussi, les jours que les filles font moins de chambres, elles ne payent pas le contrat des filles. Ouais, c'est ça qu'elle m'a dit.
C'est-à-dire, si elles n'ont que 12 chambres à faire, elles doivent les faire en 3 heures.
Ah, en 3 heures.
Et donc,
pas à 4 heures.
Elles ne sont pas payées pour les 4 heures.
Non.
Parce que normalement, dans leur contrat, c'est marqué au minimum 4 heures.
Minimum 4 heures.
Et donc, l'employeur doit payer au moins les 4 heures.
Voilà, mais c'est le contraire.
C'est leur mensualisation.
Voilà, c'est le contraire.
Ils ne peuvent pas payer en dessous de ce qui est marqué dans le contrat.
Ah, ben c'est ce que la STN, elle fait.
Elle fait. Par exemple, quand tu as 12 chambres à faire, tu mets combien de temps, par exemple, toi?
12 chambres, des fois, ça dépend si tu as 10 départs. C'est presque quand tu fais 16 chambres. Oui, des fois, c'est... Parce que des fois, tu as beaucoup... Quand tu as beaucoup de départs, ça prend beaucoup de temps. Les recouches, ça, c'est vite fait. Mais les départs, il faut tout changer. Voilà.
Ça prend combien de temps pour une recouche, en fait?
Ben, ça dépend. Il y a des clients propres. Voilà. Quand les clients, quand on tombe avec des clients propres, ça ne dépasse pas 10 minutes. Mais quand tu tombes avec un client qui est vraiment dégueulasse, tu peux faire 20 minutes. Les filles, même, ils préfèrent en ce moment faire un départ qu'un recouche.
Ouais.
Parce que ça prend beaucoup de temps.
Et il y a les salles de bain à faire aussi.
Ah oui.
Donc c'est plus difficile. Il y a des baignoires,
il y a la douche. Bon, des fois, on fait les travaux de jour, on fait ça. Et chaque jour, on prend un petit truc pour le faire. Des fois, c'est le carrelage, des fois, c'est...
Ah oui, on refait pas tout en entier.
Non. On prend au fur et à mesure,
Maman, elle joue pas les starlettes, elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose... lunettes de soleil. Elle pose pas pour des magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Et oui, c'était Ma Môme de Jean Ferrat, une petite chanson ouvrière, c'est bien d'époque. Nous allons parler avec Ludo, si tu me le permets, je vais te poser une question sur la condition des femmes de chambre aujourd'hui. Est-ce que tu as une petite chose
On en a beaucoup parlé ici, oui, hein, donc c'est une longue lutte en fait, parce que c'est un symbole à la fois de la sous-traitance et entre guillemets de la mondialisation, si je peux me permettre. Alors y compris dans les services. Alors on va me dire qu'est-ce que vient faire la mondialisation dans les hôtels. Et ben c'est pas très compliqué, c'est que comme vous êtes aperçu, hein, les grands hôtels parisiens. Alors les grands hôtels parisiens ont ouvert leur capital aux investisseurs étrangers. Et puis en parallèle, il y a aussi des très grandes chaînes qui sont des groupes internationaux, hein, style Accor, tout ça. Et donc ça fait presque une espèce de délocalisation de l'emploi, une délocalisation interne. Alors je m'explique, ou une dévaluation interne, comme on dit, des salaires. C'est-à-dire que depuis plusieurs années, hein, via ces grands groupes internationaux ou ces prises de contrôle par l'étranger, les femmes de chambre se sont retrouvées dans un emploi qui était proche du 19e siècle, c'est-à-dire à la tâche.
Payé
à la tâche, oui. Via des sociétés de sous-traitance qui tiraient les salaires vers le bas.
Genre intérim, c'est ça, non?
Non, pas du tout. Mais c'est comme le marché du nettoyage, le marché des services, hein, soi-disant pas producteur de plus-value, comme ils disent. Hein. Et c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que c'est des sociétés qui ramagent des marchés, où c'est un appel d'offres qui est remis tous les 2 ans ou tous les 3 ans en concurrence. Et donc c'est une entreprise qui ramasse le marché, qui ramasse aussi des salariés finalement, qui sont toujours les mêmes dans les sociétés de nettoyage, pour les femmes de chambre. Et du coup, bien entendu, c'est des conditions de travail qui sont déplorables, parce que pour ramasser le marché, il faut proposer la meilleure offre, donc le moins-disant social. Hein, oui, il faut proposer la meilleure offre, le salaire le plus bas. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de précariser les salariés qu'on a à disposition. Donc voilà, donc c'est une très très longue lutte qui date pas d'hier. Odile Merkel est venue nous en parler, et donc il y a quand même eu des améliorations, puisque dans certains groupes ont été condamnés à réintégrer directement les salariés et à les embaucher de façon pérenne, puisque c'est en fin de compte les mêmes salariés qui bossent pour la même entreprise, mais via des sociétés différentes. Donc finalement, c'est le donneur d'ordre. Donc les grands hôtels qui incombe la responsabilité de proposer des salaires corrects et des conditions de travail correctes à ses salariés.
Là on a affaire à un groupe chinois qui...
Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait la mondialisation remet à chaque fois en cause, entre guillemets, bon, la mondialisation c'est un grand mot, mais remet à chaque fois en cause les acquis des salariés. Donc là, effectivement, c'est un groupe chinois qui a récupéré l'hôtel, et puis qui lui voit pas pourquoi il va investir si c'est pas pour avoir une marge de profit importante, et donc il renoue avec des pratiques qui ont été éliminées dans certains hôtels, dans certains de ses concurrents. Et donc voilà, donc c'est vrai que le droit de grève en Chine, je sais pas, mais effectivement, hein, embaucher des briseurs de grève, comme on dit, pour empêcher en fait que le rapport de force, pour empêcher les salariés d'obtenir un peu gain de cause. Alors en plus on a les résultats du groupe, c'est assez effrayant, quoi. 537 000 euros de résultats pour 2 millions de chiffres d'affaires.
Ouais.
Voilà, c'est Tour Eiffel, c'est juste l'hôtel en question. Hein.
C'est ça, oui.
Et le résultat du groupe, voilà. Que j'ai dit oui, c'est ça, 2 millions de chiffre d'affaires, 20 millions de bénéfices, 2 milliards de chiffre d'affaires, 20 millions de bénéfices. Voilà, chez Louvre Hôtel Group. Voilà. Donc, il s'agit encore une fois d'un conflit, mais ça, c'est utile. Alors, c'est bien parce qu'il y a Nuit Debout. Il y a des gens qui rêvent d'une convergence des luttes entre Nuit Debout. Ouais. Et la lutte continue entre salariés.
Oui. Alors, ils ont été convoqués quand même par le TGI le 13 avril. Hein. Et donc, ils risquent quand même 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, hein, le groupe. Hein.
Le groupe 3 ans de prison, c'est pour le directeur.
Pour le directeur de... Oui. Ouais. Ça, c'est ce que dit la CGT. Maintenant, il faut voir si la suite, lorsqu'ils vont faire appel, j'imagine qu'il va y avoir tout un processus.
Entendu, ce genre de... Ce qui est important, c'est la lutte aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
Même si les décisions de justice, mais comme elles arrivent assez tardivement...
Tout à fait. Alors, je te propose d'écouter la deuxième partie de son qui a été enregistrée par Odile dans le cadre de ce rassemblement.
Souvent.
Ben oui, à 6h passées.
Ben oui. Réceptionniste, je peux vous confirmer qu'il n'y a pas un jour où je les ai vus partir à 14h.
Ah non.
Voilà, donc en fait, ils terminent, ils commencent. Donc ils arrivent à 9h. Donc il y a les premiers départs souvent sont le matin. Et à 9h, moi je les ai vus parce que comme j'ai l'habitude de les appeler. Mais à 14h parfois, les chambres ne sont pas prêtes parce qu'ils n'arrivent pas à finir. Donc ils partent à 16h, 15h30, 16h, oui, parfois même jusqu'à 17h.
Et est-ce que vous avez vos enfants que vous devez aller chercher à l'école?
Ben oui.
Oui, vous devez aller chercher.
Il y a des filles, elles n'ont personne pour aller récupérer les enfants.
Oui.
Donc à la fin, ils ont obligé de laisser les enfants au goûter.
Jusqu'à 18h.
Même si tu quittes ici à 17h, tu as une heure de trajet pour aller récupérer tes enfants. Des fois, ça tombe que tu viens et prendre tes enfants à l'école un peu en retard.
Oui.
On t'appelle.
Ça, c'est très mal vu. En fait. Des fois, les directrices d'école, elles ferment les portes. C'est plus possible de rentrer.
Avec STN, c'est normal, hein.
Non, mais ça, je trouve que c'est important de le dire parce que c'est vrai que les maîtresses et les directrices d'école,
elles
sont toujours en train de parler sur les dames qui ne viennent pas chercher leurs enfants. Et c'est un problème, elles ne font pas attention à leurs enfants.
C'est pas ça, c'est les problèmes de boulot en fait.
C'est ça.
Sinon, tout le monde veut aller chercher ton enfant à l'école à temps et à l'heure.
Et des fois, il arrive qu'il y ait des enfants qui restent même.
Jusqu'à 18h30.
Devant la porte.
Ils
mettent devant la porte et ils sont tout seuls.
Ben oui. C'est comme ça.
Et le père, dans tout ça, ils sont payés que 4 heures par jour.
Ouais, 4 heures.
C'est-à-dire, si au moins tous autant là pour lesquels.
On ne va pas les payer plus pour ça.
Non.
Et que c'est difficile avec les salaires que vous avez de soutenir la famille.
Très difficile.
Moi, c'est ce qui trouve le plus scandaleux.
Très difficile.
Il faut leur dire
avec un salaire de moins de 600 euros.
Ouais.
Ou 600 euros. Attends. C'est pas facile, hein.
Elles peuvent pas gagner plus que 600 euros.
Non.
C'est impossible.
Si c'est beaucoup, c'est presque 700 ou 700 et quelques centimes.
Ça, c'est pour celles qui ont un contrat de 5 heures, c'est ça?
Non. Ça, c'est quand on paye les tickets de transport, ouais. Ça te fait ramener à 700, 700 et quelques.
D'accord.
Voilà.
Oui. Parce qu'il y a beaucoup de primes qui ne sont pas payées, qui devraient être payées.
Ah, nous, on n'a jamais connu les primes. Hein.
Il n'y a pas de primes.
Ah, non, jamais.
Vous ne savez pas ce que c'est.
Non. Ça, c'est pas dans notre vocabulaire ici, parce qu'on ne connaît pas le problème des primes ici. Non. Jamais.
D'accord. Il y a des femmes qui...
À part le mois de décembre, vers Noël, on nous donne le chèque cadeau.
Un chèque cadeau?
Voilà.
De combien?
Bon, cette année, on a eu combien? Cette année, les filles, ils ont eu combien? Ouais, 178.
178
euros. Non, 78 euros.
78
euros.
Oui, c'est dérisoire. Hein.
Ouais, 78
euros. Il y a même poulet, quoi.
Oui,
voilà.
Pour acheter une dinde ou même pas le sapin de Noël.
78.
Irlande. Ouais, d'accord. Et alors, il y a des femmes qui sont seules avec leurs enfants?
Ben oui.
D'accord, il y en a plusieurs.
Ben oui, bon, il y en a pas mal, quand même.
Ah, seules, elles n'ont pas de mari les aide et tout
non,
ça?
Non.
Mais il y en a une qui est amnestie avec ça. Alors, il y a un enfant sur le
piquet. Ouais, son fils, il a rendez-vous, donc elle est obligée de venir avec son fils. Tu vois, pour manifester un peu, et puis d'ici, elle part voir le médecin. Elle a rendez-vous avec le médecin.
Bah ouais. Et du coup, il n'y a personne pour garder les
Voilà, il n'y a personne pour garder. Parce qu'elle ne peut pas laisser le petit à l'école et puis venir ici, courir, aller chercher le petit à l'école et puis aller voir le médecin.
C'est trop compliqué.
Ah non.
C'est... Même si elle est en grève, elle aurait pu pas venir ici, mais elle est venue quand même.
Oui.
Ça, c'est quand même classique.
Voilà.
D'accord. Et du coup, elles sont toutes syndiquées, les femmes de chambre?
Oui, tout le monde.
D'accord.
Tout le monde.
Tout à la CGT.
Tout le monde, sans exception.
D'accord. Ouais. Depuis le début du mouvement.
Ouais.
Oui. Depuis le... Et avant, vous n'étiez pas syndiquée?
Non. Mais on a décidé d'aller prendre nos syndiqués. Ça va faire presque un an. Ou plus même.
D'accord.
Oui. Bah, ils se sont syndiqués même avant les personnes.
Oui,
c'est un
coup de syndicat. Non, c'est pas le début du conflit. Parce que moi, avec l'ancienne société qui sont partis, c'était. Avec l'ancienne société, on n'arrête pas de crier. On n'arrête pas de dire le boulot qu'on fait, on ne paye pas ça. Après, l'ancienne société, elle est partie. Après, la nouvelle société, elle est venue, STN.
Quand STN, il est. L'ancienne, c'était qui?
L'ancienne, c'était Luxe et Tradition.
D'accord.
Voilà. Monsieur Griot. Maintenant, c'est avec STN, Monsieur Atlan. Donc, quand lui, il est venu, c'est moi, j'ai commencé à faire le remarque. Et moi, quand j'ai vu mon fiche de paie, j'ai dit, c'est pas possible. Je suis resté comme ça pendant 3 mois. 4e mois, j'ai décidé de venir voir Momo. J'ai dit, Momo, ça va pas du tout. Il faut que, si tu connais un syndicat, franchement, j'aimerais bien aller voir un syndicat pour me faire syndiquer. Parce que là, avec les conditions de travail, là, nous, on pensait qu'avec la nouvelle société, ça va commencer à aller bien. Mais c'était le contraire. C'est ça qui m'a motivé d'aller me syndiquer. Voilà. Voilà.
Parce qu'avant, vous étiez aussi payé à la chambre.
Oui, ça a été toujours vous comme ça. Mais par contre, eux, ils nous payent les heures sup.
Mais ils payaient quand même des heures supplémentaires.
Ils payaient les heures fixes.
Si on allait au-delà des heures du contrat.
Quand les filles ils prennent plus de chambres, on leur paye.
Il fallait qu'elles prennent plus de chambres.
Voilà.
Et là, on leur.
Avec STN, même quand tu prends beaucoup de chambres, la fin du mois, tu ne vois rien. Donc,
oui,
c'est encore pire.
Oui, c'était quelle société au début?
C'était Luxe Tradition avec Griot.
Ah oui, d'accord, voilà, c'était ça.
Avec Griot à Opéra, là.
Vous faisiez autant de chambres, enfin, vous faisiez aussi 4 chambres par heure?
Moi?
Oui, avec Luxe et Tradition.
Non.
C'était pas comme ça?
Non, avec Luxe et Tradition, il y a des filles qui ont des contrats de 4 heures. Il y en a contrats de 5 heures, il y en a même plus, ça dépend.
Il y a eu des changements dans les contrats?
Non, il n'y a pas. Bon, et avec STN, quand STN est venu, ils ont changé le contrat de Ourdia. Au début, Ourdia, elle avait le contrat de 4 heures. Maintenant, elle a des contrats de, je ne sais pas si c'est 5 heures ou 5h30. 5 heures. D'accord. Elle a des contrats de 5 heures maintenant. Voilà. Bon, comme moi, on m'a mis ici comme première femme de chambre, moi, j'ai un contrat de 5 heures. Non, 6 heures, combien? 6h25 ou 30? 6h30. Voilà.
D'accord. Mais avant, vous étiez à 5 heures.
Non. Même avant que j'ai quitté, même quand j'ai quitté ici, là, non. Ça, c'était avec STN. Non, avec Griot. Quand STN, elle est venue, elle m'a trouvé avec mes contrats.
D'accord. Donc, ça n'a pas changé. Alors.
Non, ça n'a pas changé.
Les sociétés de sous-traitance,
oui.
Elles s'échangent les salariés comme elles rachètent vos contrats.
Oui, en gros, vous
allez continuer sur
Voilà.
Oui, c'est-à-dire après... qu'il y a une loi qui, normalement, qui dit que le personnel doit rester.
Mm-hmm.
S'il travaille déjà sur un site, mm-hmm. s'il y a un changement
de
société, mm-hmm. une passation de marché, le personnel de l'ancienne société doit être repris par mm-hmm. la nouvelle société.
Oui.
C'est ça qui s'est passé.
Oui, c'est ça.
D'accord. Mm-hmm.
Oui,
c'est pas toujours le cas. Et puis maintenant, avec la nouvelle loi, là, El Khomri, je ne sais pas si ça va...
Non, parce que des fois, même quand Griot il est parti en partant, ils ont proposé à quelques femmes de chambre, ils ont pris quelques femmes de chambre, mais ce n'était pas beaucoup. Mais des fois, il y a des hôtels, même, ils n'ont même pas pris même une. Parce qu'eux aussi, ils n'ont pas de place pour mettre des filles.
Okay.
Donc, du coup, toutes les filles, elles étaient obligées de rester à leur place avec la nouvelle société.
Est-ce que vous avez des fois des mutations, enfin, on vous oblige à aller travailler dans un
hôtel? Si, on a connu ça même avec l'ancienne, avec le nouveau société. Oui. Ça a été toujours comme ça.
Oui, si jamais, par exemple, il n'y a pas assez de clients dans l'hôtel, vous allez partir.
Oui, ils demandent aux filles d'aller travailler ailleurs.
Ailleurs.
Oui.
Ça vous arrive souvent ?
Oui, oui, oui.
Et ça, c'est la clause de mobilité ?
Oui, c'est ça, c'est la clause.
C'est dans le contrat ?
Non, je ne pense pas si c'est... Je crois que c'est marqué sur le contrat. Oui, c'est marqué sur le contrat.
D'accord.
Oui, c'est dans le contrat.
Donc il y en a, on peut les envoyer, quand elles ont fini leur chambre ici, on peut leur dire maintenant vous
allez Non. C'est pas que tu commences la chambre dans un autre hôtel et puis aller finir dans un autre hôtel. On te dit aujourd'hui, demain, tu ne travailles pas sur ton site, tu vas aller travailler ailleurs.
Ah, c'est tel jour.
Voilà, voilà. Voilà, des fois, on a une journée à prévenir les filles, des fois deux jours, ça dépend.
D'accord, merci. Ouais.
Merci.
Donc, à la suite de cet enregistrement réalisé par Odile, on nous communique au travers d'un tract de la CGT Hôtel de Prestige et Économique, on nous annonce donc une victoire sur cette lutte, comme quoi il faut ne pas hésiter lorsqu'il y a des injustices et des maltraitances au niveau du travail à faire valoir ses droits. Je vous lis le tract. Fin de la sous-traitance au campanile Tour Eiffel et aussi des avancées conséquentes sur le pouvoir d'achat parce qu'il ne voulait plus d'un modèle économique qui broie les femmes et les hommes. Après pratiquement un mois de grève et une nouvelle action devant le siège de Louvre Hôtel Group, à la Défense, ce vendredi 15 avril, la direction nous a reçus et un protocole d'accord de fin de conflit a été signé le 16 avril à 11h30. Les grévistes obtiennent la fin de la sous-traitance et l'embauche directe au 18 avril 2016 des femmes de chambre et de la gouvernante avec reprise de leur ancienneté. Les cadences indicatives diminuent de 25%, de 4 à 3 chambres à l'heure. Les mensualisations des femmes de chambre passent de 86h67 à 108h33. Celles de la première femme de chambre de 119h17 à 130h, bref, et celles des gouvernantes, etc. Donc il y a des augmentations, on ne va pas toutes les décrire ici. À cela s'ajoute l'augmentation du taux horaire de 30 centimes d'euros à 1 euro de l'heure. Hein, c'est en fonction des qualifications, je suppose. L'application des accords collectifs de l'UES Louvre Hôtel, soit la prime transport à 100%, plus 35 euros par mois, les jours fériés à 100%, le versement d'une indemnité nourriture et la mutuelle à 70%, etc. Pour les salariés en interne, les qualifications et mensualisations sont augmentées pour 3 grévistes sur 7. Tous obtiennent l'instauration de 75% d'un 13e mois, 6% du salaire brut annuel de base, des négociations sur toute l'UES Louvre Hôtel s'ouvriront à partir du 15 septembre 2016 sur l'égalité de traitement et la sous-traitance. Une seule semaine de grève est retenue. Le reste des jours de grève sont payés à 50%, le solde de 50% étant à récupérer. Voilà. Donc, une victoire qui n'est pas forcément la victoire finale, enfin par rapport à toutes les revendications, mais disons que c'est une bonne nouvelle par rapport à cette lutte qui a duré quand même pas mal de temps.
T'es bien Marianne avec tes flics à jouer la démocratie. Sur 3 passants, il y a 2 indiques et le 3e est en habit. Mes airs un peu bégales, il y a la révolution qui gronde, il y a la révolution qui gueule, et moi j'aime Marie ma blonde.
Et oui, venez d'entendre donc la chanson Marianne de Marc Augeret, un chanteur engagé qui, s'il en est, nous allons prendre cette émission sur Fréquence Paris-Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi, émission chômeur et précaire. Donc on reprend cette émission en parlant maintenant des dividendes qui sont distribués aux actionnaires, la façon dont elles sont distribuées finalement. Ludo, qui a suivi l'affaire, va nous en parler un petit peu. Que se passe-t-il exactement dans les entreprises aujourd'hui au niveau de la distribution, de la rétribution des actionnaires?
Alors, en fait, on en parle. Pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, je sais pas. Vous avez peut-être écouté François Ruffin, qui est donc initiateur des Nuits debout et qui est donc aussi le rédacteur en chef de Fakir et qui est passé à On n'est pas couché. Donc en avril, il y avait Yvon Gattaz et donc on l'a vu avec un panneau en fait hein, où il montrait effectivement que dans la masse salariale les dividendes avaient augmenté, étaient passés de 4 à 13% des années 80, de 4% dans les années 80 à 13% en 2016, enfin c'est pas, on a deux ou trois ans de retard dans les statistiques, donc on va dire 2015 ou 2014. Et donc en fait alors, enfin, c'est vrai que ça. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, le patron des patrons se réfugiait derrière le fait que cette fameuse loi travail était bonne pour les petites entreprises. Donc, on avait un mec qui faisait de la retape pour les petites entreprises, pour la flexibilité pour les petites entreprises, qu'ils étaient créatrices d'emplois, Et évidemment, on évacuait tout le problème. Du capitalisme français qui en fait est un capitalisme de groupes, de grands groupes en fait, qui alors typiquement les banques françaises sont des grosses banques qui compensent leur faiblesse intérieure par une suractivité à l'extérieur. Et c'est pas le seul groupe français qui effectivement, sont des grandes puissances financières qui vont chercher des parts de marché, qui tentent d'aller chercher des parts de marché à l'extérieur.
À l'international pour les trois.
Exactement, Carrefour, tout ça. Donc évidemment, ça, c'est les entreprises du CAC 40. Et en fait, c'est ce qui explique. C'est ce qui explique en partie, comme le rappelait Léa Salamé dans l'émission, que le pays qui rétribue le plus. En fait, les dividendes, c'est en Europe, c'est la France.
Oui, c'est ça.
Bon, et ça montre un peu, hein, je veux dire que sous nos couverts de démocratie, de hein, tout ça, de droits de l'homme, on est quand même sacrément conservateur et sacrément hypocrite.
Et sacrément réac surtout.
Non, mais c'est surtout qu'on donne des leçons à la terre entière et puis que voilà quoi. Et donc effectivement, comme l'expliquait François Ruffin, si vous prenez la masse, c'est important parce que si vous voulez, c'est pris en masse globale de ce qu'on appelle le chiffre d'affaires.
Non,
alors oui, voilà, c'est un équivalent du chiffre d'affaires. C'est le bilan d'exploitation.
Le bilan d'exploitation. Voilà, juste. Ah oui.
Et qui prend en compte, en réalité, l'exploitation d'exploitation brute, et qui prend tout en compte. C'est-à-dire à la fois, c'est un équivalent du chiffre d'affaires, effectivement, plus les impôts que vous allez payer, donc salaire, impôts, et effectivement, part, emprunt à la banque, remboursement à la banque, et part que vous versez aux actionnaires. Et donc, tout compris, donc toute entreprise confondue, on est passé, en fait, de quelques pourcents dans les années 80, oui, à effectivement 12-13%. Voilà. Et tout laisse supposer qu'aux États-Unis, c'est encore pire. Alors, justement, toute la question, c'est qu'on parle de dividendes, donc on parle d'actionnariat, donc de sociétés cotées en bourse. Et donc, Gattaz a dit à François Ruffin, mais vous parlez de quoi juste? Ces entreprises du CAC 40, c'est les petites TPE, tout ça. Donc, ouais, il a raison. En fait, de 4 à 13%, bon, c'est beaucoup. Hein. Mais finalement, c'est 13%, et puis c'est toute entreprise confondue. Sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans certaines entreprises qui sont effectivement des entreprises actionnariales et qui sont sujettes à la pression actionnariale, en réalité, c'est beaucoup plus. Et d'où les taux de rentabilité qui sont exigés et qui pèsent, bien entendu, sur les salaires. Donc, effectivement, la part salariale dans la valeur ajoutée a perdu 10% depuis les années 80. Et c'est 10% qu'on retrouve du côté du, entre guillemets, du capital. Mmh. Et donc, qui correspond effectivement, grosso modo, aux 10% qui sont versés qui sont versés aux actionnaires. Exactement. Alors,
Moi, je connais, j'ai un exemple, je connais des gens qui, sur une période de 10 ans, ont perdu un pouvoir d'achat de l'équivalent de 120 euros. Sur 10 ans, pour le même emploi, la même convention collective, le même poste de travail, exactement le même poste au bout de 10 ans, hein, en 10 ans, ils ont perdu l'équivalent de 120 euros.
Oui, ce qui est énorme, parce que vu l'inflation...
Sur un salaire.
Parce qu'on prend même pas en compte l'inflation, donc oui. T'as une perte. Et alors justement, là, on parle juste donc de la valeur ajoutée, donc c'est-à-dire, comme je t'ai expliqué, hein, qui prend tout en compte, c'est-à-dire, vous allez reverser, prendre en compte les salaires, vous allez verser les impôts, les remboursements de la banque, et puis ce que vous payez aux actionnaires. Mais du coup, quand la part des bénéfices elle-même que se verse l'entreprise, une fois qu'elle a tout enlevé et qu'elle peut garder, donc là on enlève les salaires, tout ça, et bien en fait, en masse globale, une très large partie des profits partent dans les dividendes. Donc là, le graphique qui suit, c'est donc dans Fakir, hein, c'est 85% des profits partent en dividendes. Et ça, en fait, ça a une conséquence directe sur les entreprises, c'est que ça nuit à leur capacité d'autofinancement. Donc, en résumé, ça nuit à leur marge.
D'accord.
Vous voyez. Et donc ça, c'est un des aspects. Mais alors quand, là, on est au niveau de la France, on dit, bah oui, mais après tout, alors voilà, on peut dire 4 à 13%, c'est pas beaucoup. En réalité, ce que ça traduit aussi, c'est qu'on est dans une économie qui est de plus en plus ouverte. Et donc là, on parle bien des entreprises françaises, mais il faut bien imaginer que le type qui bosse pour Mittal, le type qui bosse pour un grand groupe international, lui aussi, il est plus que d'autres soumis à cette pression actionnariale qui vient de l'étranger. En l'occurrence. Hein. Et donc, il faut bien comprendre que quand on dit 5 à 13% des entreprises, mais on parle pas de tous les salariés qui sont soumis. Vous voyez, là on pourrait dire que c'est seulement sont concernés les salariés qui appartiennent aux entreprises françaises. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en dans une économie ouverte, bah oui, vous êtes salarié, vous travaillez pour un groupe chinois, pour un groupe anglais. Et donc, cette pression actionnariale dans les grands groupes et dans l'industrie, eh bien, c'est ça qui, effectivement, fait stagner les salaires. Et il y a un dernier chiffre qui est important, quand même, qui montre bien ce qu'est devenu le capitalisme aujourd'hui, c'est qu'à mesure que la courbe des profits augmente, les dividendes versés aux grands actionnaires augmentent, la courbe de l'investissement décroît.
Bah, automatiquement, bien sûr.
Eh bien, ça ne serait pas automatique, puisqu'on a libéré les freins, justement, au capital pour permettre à ce fameux capital de se réinvestir. Parce que c'est le but de l'actionnariat. L'actionnariat, il est censé investir.
Oui,
c'est
oui.
Ça, le but de l'action. Eh bien, en réalité, une fois qu'il est investi, le rendement qu'on va tirer du capital est plus important que l'investissement, à la fin. C'est ça, l'idée. C'est-à-dire qu'on presse le... Et l'investissement chute, et il chute aussi... Il chute aussi pourquoi ? Il chute aussi parce qu'effectivement, les entreprises perdent leur capacité d'autofinancement et qu'elles sont soumises à cette concurrence, en fait, qui détruit leur capacité de réinvestissement.
Et quand tu parles d'investissement, c'est pas uniquement l'investissement en machines hein, ou en technologie, c'est investissement également en humain.
Investissement, globalement, c'est la somme que tu mets. C'est pas l'embauche. Hein. L'investissement, c'est effectivement sur les machines, mais c'est aussi en recherche.
En recherche technologie.
Et c'est ce qui, en principe, permet de préparer l'avenir pour une entreprise. Mmh. Donc, en fait, on est la contrainte actionnariale, c'est du court terme. Par rapport à un emprunt à la banque qui est fixe, et semble-t-il, hein, c'est que les fonds, voilà. Et alors, pour finir hein, sur cette question, c'est qu'on a vu quand même quelque chose de c'est quelque chose qui était prévisible, mais qu'on voit s'épanouir à plein ces années, c'est qu'au fond, La contrainte actionnariale, finalement, elle est portée par des investisseurs qui sont multiples, qui sont variés, et qui sont des investisseurs institutionnels. Donc, par exemple, effectivement, les fonds de pension américains, c'est des groupes financiers qui vont, qui sont payés pour obtenir un maximum de rentabilité de leur capital, pour le reverser, en l'occurrence, à leurs retraités, voilà. Et donc, le propre de ces fonds, dont l'objectif est d'obtenir un maximum de rentabilité à court terme, c'est qu'à la fin, la technique de management consiste à reprendre des entreprises, à tenter d'en tirer le maximum tant qu'elles sont encore rentables, avant délocalisation, avant fermeture. Et donc, cette espèce de capitalisme
outrancier,
mondialisé, au sens où on a une économie ouverte, où on peut prendre des participations à droite et à gauche, finalement, enfin, cette mondialisation, finalement, elle accélère la délocalisation. Elle accélère les délocalisations. Et c'est ce qui se passe pour toute l'industrie française. Même si l'industrie française est moins rentable, en réalité, les prises de participation accélèrent la décomposition du tissu industriel. Et donc, du coup, effectivement, on se retrouve avec des ouvriers d'industrie qui sont dans certains cas à l'agonie.
Alors justement, puisqu'on est dans mode d'emploi, quel mode d'emploi peut-on prendre, peut-on avoir pour justement faire changer la courbe, de faire changer la tendance, la courbe? Parce que on a pu voir que les manifestations, Nuit debout, etc. C'est finalement quelque part comme les indignés d'une certaine époque, ou alors les anti-sommets européens, etc.
Ouais, Occupy Wall Street, oui, tout à fait.
Ça apporte, symboliquement, c'est intéressant, il faut continuer à le faire, mais dans la réalité, on est toujours avec 3,5 millions de chômeurs, les délocalisations, etc. Donc, comment obliger les patrons à changer, peut-être à toucher moins pour que tout le monde puisse toucher un peu plus, quoi.
Il n'y a pas de baguette magique.
Je sais bien.
La seule chose, c'est qu'au fond, d'abord, il faut voir d'où on part, en fait. C'est-à-dire à une époque où on part quand même d'une période où les mobilisations, même si on avait, n'étaient pas... Ou en tout cas, électoralement, on va dire qu'on n'avait pas encore atteint un seuil qui est critique. Et là, on peut dire que le Front National étant proche des 30%, bah oui, le seuil critique commence à être atteint. Et la deuxième chose, c'est que ce que disent les marxistes, c'est qu'il n'y a pas de changement sans pression sociale, en fait, hein, et sans prise de conscience des salariés eux-mêmes. Et donc, Nuit Debout participe à cette prise de conscience, même si c'est dans un premier temps symbolique. Et bien entendu, il reste un souci, c'est la convergence des luttes.
Oui,
voilà, c'est-à-dire, bon, c'est pas facile, effectivement, quand t'es salarié et que tu te bats pour ta boîte, non plus, d'être présent, voilà. Mais à terme, il faut bien voir qu'électoralement, les choses commencent à bouger, et aux États-Unis, en Angleterre, et donc, en France, un peu avec du retard, ouais, en Espagne, ouais, bien sûr, en Grèce. Et donc, c'est bien de cette pression simultanée en plusieurs endroits qu'on peut espérer, à un moment donné, un renversement, un changement, entre guillemets, de paradigme, hein, c'est savoir à quel moment tu mets des règles du jeu qui sont différentes et qui ne profitent pas aux élites nationales de chaque pays. Parce que c'est ça le principe du capitalisme américain depuis 30 ans, c'est d'avoir créé une espèce d'élite de milliardaires qui a fait de l'international son terrain de jeu. Et en France, c'est la même chose. Hein.
Merci pour ces éclairages, Ludo. Cette émission se termine. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour à nouveau une émission sur le social et la politique. Bisous, filles, et poignez-moi, garçons. Ciao.